34. Soura Novi paraissait épuisée. Elle avait les yeux agrandis et sa lèvre inférieure tremblait légèrement. Ses mains se crispaient et s'ouvraient spasmodiquement. Sa poitrine se soulevait légèrement oppressée. Elle portait les cheveux tirés en arrière et tressés en nattes. Son visage bronzé était par instants pris de tics et ses mains ne cessaient de tripoter nerveusement les plis de sa longue robe. Elle scruta la table, l'air hagard, passant d'un orateur à l'autre, les yeux emplis de terreur respectueuse. Ils lui rendirent son regard avec des degrés divers de gêne et de mépris. Delarmi maintint les yeux largement au-dessus du sommet de sa tête, ignorant sa présence. Précautionneusement, Jandibal effleura les franges de son esprit, l'apaisant et le décrispant. Il serait parvenu au même résultat en lui tapotant la main ou en lui caressant la joue, mais ici, vu les circonstances, c'était bien entendu impossible. Il crut bon d'expliquer. « Premier orateur, je suis en train d'engourdir les perceptions conscientes de cette femme pour éviter que son témoignage ne soit biaisé par la peur. Voulez-vous remarquer, je vous prie, le reste du conseil peut également, s'il le veut, se joindre à moi pour le constater, que je ne vais en aucune manière altérer son esprit. » Novi avait reculé en sursaut, terrorisé par le son de sa voix, et Jandibal n'en fut pas surpris. Il se rendit compte qu'elle n'avait jamais entendu dialoguer entre des seconds fondateurs de haut rang. Jamais encore elle n'avait fait l'expérience de cet étrange et subtil échange précipité de sons, d'intonations, d'expressions et de pensées entremêlées. Sa terreur, toutefois, s'évanouit aussi vite qu'elle était venue à mesure qu'il apaisait son esprit. Son visage prit un air placide.
« Vous avez un siège derrière vous, Novi, » dit Jandibal. « Asseyez-vous, je vous prie. »
Novi fit une petite révérence maladroite et s'assit très raide. Elle s'exprimait tout à fait clairement, mais Jandibal lui faisait répéter lorsque son accent choyen devenait par trop prononcé. Et parce qu'il avait lui-même adopté un ton formaliste par égard pour la table, il devait également lui répéter parfois ses propres questions. Le récit de l'altercation entre Jandibal et Ruffiran fut exactement décrit, sans aucune difficulté. Jandibal demanda « Avez-vous vu tout cela vous-même, Novi ?»«
Non, maître. Sinon je l'aurais stoppé vite fait. Ruffiran est peut-être un brave gars, mais il a point beaucoup de tête. »
« Mais vous avez pourtant décrit toute la scène, comment est-ce possible ?» si vous n'avez pas tout vu.
Ruffiran m'a tout raconté après coup. Quand je lui ai demandé, il avait ben honte.
Honte? Avez-vous souvenance d'un comportement analogue de sa part auparavant?
Ruffiran? Non pas, maître. Les doux comme tout, malgré sa taille. Pas le moins du monde bagarreur, et par le fait, les plutôt peurés par les chercheurs. Même qui dit des fois qu'ils ont des pouvoirs et qui doivent être possédés.
Pourquoi n'était-il pas dans ses dispositions lorsqu'il m'a rencontré?
C'est ben là le bizarre. Même que je me l'explique pas.
Elle hocha la tête.
L'était point lui-même, je lui ai dit. Espèce de tête creuse. C'est-il ta place d'attaquer un chercheur? Et il m'a dit. Je sais pas comment que c'est arrivé. Comme si que j'étais par côté à regarder faire un autre.
L'orateur Cheng intervint.
Premier orateur, quel est l'intérêt d'écouter cette femme rapporter ce que lui a raconté un tiers? N'y aurait-il pas moyen de retrouver trace de cet homme?
C'est tout à fait possible, dit Jandibal. Et si, à l'issue du témoignage de cette femme, la table désire entendre de nouvelles preuves, je suis tout prêt à appeler à la barre Carole Ruffiran, mon récent antagoniste. Sinon, le conseil pourra passer directement au verdict, une fois que j'en aurai fini avec le présent témoin.
« Très bien, »
dit le premier orateur.
« Vous pouvez poursuivre l'interrogatoire du témoin. »
Jandibal se tourna vers Novi.
Et vous, Novi, était-ce dans vos manières de vous immiscer ainsi dans une bagarre?
Novi resta quelques instants sans répondre. Une petite ride apparut fugacement entre ses épais sourcils. Elle finit par dire
« Je sais pas. Je veux point de mal au chercheur. Je m'a senti comme conduite et sans y penser, je m'a interposé. »
Une pause, puis
« Je la referai encore s'il le faudrait. »
Jean Dibal dit alors « Novi, vous allez dormir à présent, vous ne penserez à rien. Vous allez vous reposer et vous ne rêverez même pas. »
Novi marmonna quelques instants, puis ses yeux se fermèrent et sa tête retomba sur le dossier de son siège. Jean Dibal attendit un moment, puis dit
« Premier orateur, je vous demanderai respectueusement de bien vouloir me suivre à l'intérieur de l'esprit de cette femme. Vous constaterez qu'il est remarquablement simple et symétrique. Détail heureux car ce que vous allez y découvrir n'aurait peut-être pas été visible autrement. Tenez. Tenez. Est-ce que vous voyez ? Si le reste du conseil veut bien se donner la peine, ce sera plus facile si vous entrez un par un. »
Il y eut un bourdonnement croissant autour de la table. Jean Dibal demanda
« Avez-vous encore le moindre doute à présent ?»«
Moi, j'en ai un !»
lança Delarmi, car…
Elle s'interrompit à deux doigts de prononcer ce qui, même pour elle, était imprononçable. Jean Dibal le dit pour elle.
« Vous pensez que j'ai délibérément altéré cet esprit dans le but de présenter une fausse preuve. Vous me croyez donc capable de réaliser un ajustement aussi délicat. Une fibre mentale manifestement déformée alors que rien dans son entourage n'a le moins du monde été dérangé. Mais si je pouvais faire une telle chose, quel besoin aurais-je de me soucier de vous? Pourquoi me serais-je soumis à l'indignité d'un procès? Pourquoi me fatiguerais-je à vous convaincre? Si j'étais capable d'accomplir ce qui est visible dans l'esprit de cette femme, vous seriez tous totalement désarmés devant moi, sauf à vous être particulièrement bien préparés. Non. La réalité brute est qu'aucun d'entre vous ne pourrait manipuler l'esprit de cette femme comme il a été manipulé, ni moi non plus. Et pourtant, ça a été fait. »
Il se tut pour considérer tour à tour chacun des orateurs, avant d'arrêter son regard sur Delarmi. C'est avec lenteur qu'il reprit.
« À présent, s'il vous faut encore des preuves, je vais faire appeler Carole Ruffirand, le paysan choyen. J'ai eu l'occasion de l'examiner et de constater que son esprit a subi une altération identique.
« Cela ne sera pas nécessaire, »
dit le premier orateur. Il avait un air totalement atterré.
« Ce que nous avons vu est proprement hallucinant. »«
En ce cas, » dit Jean Dibal, « puis-je réveiller cette choyenne et la renvoyer? J'ai pris toute disposition pour que dès sa sortie soit pris en charge son rétablissement. »
Une fois que Jean Dibal eut guidé d'une main douce Novi jusqu'à la sortie, il reprit.
Permettez-moi de résumer brièvement. Des esprits peuvent être et ont manifestement été altérés d'une manière qui dépasse nos possibilités. C'est sans doute de cette façon que les conservateurs auraient eux-mêmes pu être incités à retirer des archives tous les documents portant sur la Terre, sans qu'ils en aient conscience. Nous avons vu comment on s'est arrangé pour retarder mon arrivée à la réunion du Conseil. J'ai été menacé, on m'a sauvé. Le résultat s'est trouvé que j'ai été suspendu. La conclusion de cet enchaînement apparemment naturel d'événements est que je suis désormais en posture de perdre une position influente, et le cours de l'action que je soutiens et qui menace ces gens, quels qu'ils soient, risque d'être interrompu.
Delarmi se pencha en avant. Elle était manifestement ébranlée.
Si cette organisation secrète est si habile, comment avez-vous fait pour découvrir tout cela?
Jean-Dibal se sentait assez à l'aise pour sourire à présent. Je n'ai aucun mérite. Et je ne me targue en aucune façon de surpasser en savoir les autres orateurs, et surtout pas le premier d'entre eux. Cependant, les anti-mulets, pour reprendre l'heureuse expression du premier orateur, ne sont pas non plus omniscients ni totalement à l'abri des circonstances. Peut-être ont-ils choisi pour en faire leur instrument, cette choyenne en particulier, justement parce qu'elle n'exigeait qu'un minimum de réajustement. Elle éprouvait déjà par nature de la sympathie pour ceux qu'elle appelle des chercheurs, et les admirait intensément. Mais par la suite, une fois tout cela terminé, le contact momentané qu'elle avait eu avec moi suffit à renforcer son fantasme de devenir elle-même un chercheur. C'est avec cette idée en tête qu'elle vint me voir le lendemain. Rendu curieux par une si bizarre ambition de la part d'une choyenne, j'étudiais son esprit, ce qu'en d'autres circonstances je me serais certainement abstenu de faire. Et plus par accident qu'autrement, je suis tombé sur cette altération dont je relevais tout de suite la signification. S'ils avaient choisi une autre femme, par nature moins favorablement disposée à l'égard des chercheurs, les anti-mulets auraient peut-être opéré plus en profondeur. Mais les conséquences qu'on connaît auraient fort bien pu ne pas suivre, et je serais demeuré dans l'ignorance de tout ceci. Les anti-mulets ont fait une erreur de calcul, ou n'ont pas su laisser assez de marge à l'imprévu. Qu'ils puissent accomplir de tels faux pas est réconfortant.
« Le premier orateur est vous, » observa Delarmy, « baptisez cette organisation les anti-mulets, je présume parce qu'ils semblent apparemment œuvrer pour maintenir la galaxie dans la voie du plan Seldon au lieu de le bouleverser, comme avait pu le faire le mulet. » Si les anti-mulets agissent ainsi, pourquoi sont-ils si dangereux?
Pourquoi travailleraient-ils sinon dans un dessein précis? Nous ignorons quel est ce dessein. Un cynique pourrait dire qu'ils ont l'intention d'entrer en scène à un moment donné dans l'avenir pour faire dévier le courant dans une autre direction, plus conforme à leurs vœux qu'aux nôtres. C'est mon sentiment personnel, même si le cynisme n'est pas mon fort. L'oratrice de l'armée est-elle prête à soutenir avec cet amour et cette confiance qui sont, nous le savons tous, l'un des traits saillants de son caractère, que nous sommes en présence d'altruistes cosmiques qui font le travail pour nous sans aucun espoir de récompense?
Cette remarque déclencha un léger murmure de rire autour de la table et Jean-Dibal comprit qu'il avait gagné.
Et Delarmy comprit qu'elle avait perdu, car une bouffée de rage filtra au travers de son rigide bouclier mental, comme l'éclat fugace d'un raide soleil à travers un épais feuillage.
Jean-Dibal reprit.
Lors de mon premier incident avec le paysan choyen, j'ai tout de suite conclu qu'un autre orateur était derrière tout ça. En relevant l'altération opérée dans l'esprit de la femme, je compris que j'avais eu raison quant à l'intrigue, mais tort quant à son auteur. Je présente mes excuses au conseil pour cette erreur d'interprétation et invoque les circonstances atténuantes.
Le premier orateur prit la parole.
Je pense que ceci peut être considéré comme une excuse.
Mais Delarmy l'interrompit.
Elle avait recouvré tout son calme. Le visage était amical, la voix tout sucre, tout miel.
Avec le plus grand respect, premier orateur, si je puis vous interrompre, laissons tomber cette affaire de destitution. En cet instant, je me sens incapable de voter la condamnation, et j'imagine que personne ne le ferait. J'irai même jusqu'à suggérer que cette procédure de suspension soit effacée du dossier de l'orateur. L'orateur Jean-Dibal a su se disculper avec talent. Je l'en félicite, ainsi que pour avoir découvert une crise que le reste d'entre nous aurait fort bien pu laisser couver indéfiniment avec des résultats incalculables. Et je lui présente personnellement mes plus sincères excuses pour ma récente hostilité.
Elle gratifia Jean Dibal d'un sourire positivement radieux. Et celui-ci ne put à contre-cœur qu'admirer la manière dont elle avait instantanément su faire volte-face pour limiter les dégâts. Il sentit également que tout cela ne faisait que préluder à une prochaine attaque, portée d'une autre direction. Et il était bien certain que ce qui s'annonçait n'aurait rien d'agréable. 35. Lorsqu'elle se forçait à être charmante, l'oratrice Delora Delarmy s'y entendait pour dominer la table du conseil. Sa voix se faisait douce, son sourire indulgent, ses yeux étincelaient. Tout en elle était miel. Nul ne se serait avisé de l'interrompre et chacun attendait que tombe la foudre. Elle reprit. Grâce à l'orateur Jean Dibal. Je pense que nous savons tous à présent ce qu'il nous reste à faire. Les anti-mulets nous sont invisibles. Nous ignorons tout d'eux, hormis leurs interventions fugitives dans l'esprit de certaines personnes, ici même en plein cœur de la seconde fondation. Nous ignorons ce que trame le pouvoir central de la première fondation. Il se peut que nous ayons en face de nous une alliance des anti-mulets et de la première fondation. Nous ne le savons pas. Nous savons en revanche que ce Golan Trévise et son compagnon, dont le nom m'échappe pour l'instant, se dirigent nous ne savons où, et que le premier orateur et Jean Dibal partagent l'impression que ce Trévise détient la clé permettant de sortir de cette grave crise. Alors que doit-on faire? À l'évidence, découvrir le plus de choses possibles sur Trévise, où il va, ce qu'il pense, quels peuvent être ses desseins, ou à vrai dire découvrir s'il a effectivement une destination, des idées, un but, s'assurer qu'il n'est pas, en fait, le simple instrument d'une force qui le dépasse. Jean Dibal remarqua. Il est sous surveillance. Les lèvres de Delarmy sourlèrent en un sourire plein d'indulgence. Par qui? Par l'un de nos agents à l'extérieur? Compte-t-on sur ces agents pour affronter ceux dont on a pu constater ici l'étendue des pouvoirs? Sûrement pas. Au temps du mulet, et plus tard également, la seconde fondation n'a jamais hésité à envoyer et sacrifier des volontaires choisis parmi ses meilleurs éléments. C'était la moindre des choses. Lorsqu'il devint nécessaire de rétablir le plan Seldon, Prim Palver en personne ratissa la galaxie sous les traits d'un marchand trentorien afin de ramener cette jeune fille, Arcadie. Nous n'allons quand même pas rester assis ici à attendre alors que la crise est peut-être plus grave encore que dans ces deux cas. On ne peut pas s'appuyer sur des fonctionnaires mineurs, des guetteurs ou des coursiers. Jean Dibal intervint. Vous n'allez quand même pas suggérer maintenant que le premier orateur quitte Trentor? Certainement pas. Nous avons cruellement besoin de lui. D'un autre côté, il y a vous, orateur Jean Dibal. C'est vous qui avez correctement perçu et apprécié la gravité de la crise. C'est vous qui avez détecté les subtiles interférences opérées de l'extérieur dans les archives et dans des esprits choyens. C'est vous qui avez maintenu votre point de vue face à l'opposition unanime de la table et finalement gagné. Nul ici n'a su faire preuve d'un tel discernement, et nul à part vous ne saurait mieux que vous, à l'avenir, faire encore montre d'une telle clairvoyance. C'est vous, et vous seul, qui devez, à mon avis, aller affronter l'ennemi. Puis-je demander à la table ce qu'elle en pense? Il n'y eut pas besoin d'un vote dans les formes pour le savoir. Chaque orateur percevait l'esprit de ses collègues et il apparut clairement à tous, et en particulier à un Jean Dibal soudain consterné, qu'à l'instant même de sa victoire et de la défaite de Delarmy, cette diablesse de femme s'arrangeait pour le mettre irrévocablement sur la touche, l'exilant sur une mission qui allait le retenir un temps indéfini, tandis qu'elle aurait les mains libres pour diriger la table du conseil, et donc la seconde fondation, et donc la galaxie. les diriger peut-être vers leur perte. Et si jamais Jean Dibal en exil parvenait d'une manière ou d'une autre à glaner l'information susceptible d'éviter à la Seconde Fondation la crise qui la menaçait, ce serait à Delarmy qu'en reviendrait tout le crédit. Et son succès à lui ne ferait que confirmer son pouvoir à elle. Plus Jean Dibal serait rapide, plus il serait efficace, et plus il renforcerait le pouvoir de cette formidable femme. C'était une manœuvre superbe. Un rétablissement incroyable. Et son ascendant sur la table était à présent si fort qu'elle venait même virtuellement d'assumer le rôle de premier orateur. Mais si une telle idée effleura l'esprit de Jean Dibal, elle fut littéralement balayée par la bouffée de rage qu'il sentit émaner de ce dernier. Il se tourna. Le premier orateur ne faisait aucun effort pour dissimuler sa colère. Et il fut bientôt clair qu'une nouvelle crise intérieure allait succéder sous peu à celle qui venait d'être résolue.